de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La Norvège commence samedi une vie normale. Les restrictions COVID sont levées. Le Japon se dirige vers la fin de l'urgence COVID dans la plupart des régions. Le président palestinien accuse Israël de détruire la solution à deux États. Le gouvernement mexicain établit un centre hébergement pour les migrants près de la frontière avec les États-Unis. L'Éthiopie veut que l'Indonésie partage ses expériences en matière de développement du tourisme. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La Norvège, à partir de samedi 25 septembre, rétablit la vie normale des gens. C'est ce qu'a déclaré vendredi le gouvernement norvégien, après que jusqu'à présent, les résidents aient subi des restrictions d'interaction, y compris les activités commerciales, ainsi les restrictions mises en place pour faire face à la pandémie de COVID-19 sont levées. Le premier ministre norvégien Erna Solberg a déclaré lors d'une conférence de presse que les restrictions précédemment imposées expireraient samedi à 16h heure locale, en raison de la levée des restrictions sociales. Les lieux d'activités culturelles et sportives peuvent déjà fonctionner à pleine capacité. Les visiteurs de restaurants sont également autorisés à occuper tous les sièges disponibles. De plus, les discothèques sont autorisées à rouvrir. La situation des cas de COVID-19 au Japon s'améliore, de sorte que l'état d'urgence peut être levé bientôt dans la plupart des régions du pays. C'est ce qu'a déclaré vendredi le ministre japonais de la Santé, Norihisa Tamura. Il a déclaré que le taux d'hospitalisation et la disponibilité de lits de patients dans les hôpitaux seraient un facteur déterminant pour savoir si l'état d'urgence en vigueur à Tokyo et dans la plupart des régions du Japon pourrait être levé d'ici la fin septembre. La variante Delta a déclenché une cinquième vague de COVID-19 au Japon qui a poussé les cas d'infection à des niveaux records en août. Pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés, le gouvernement japonais a prolongé une période de restriction d'urgence couvrant environ 80% de la population jusqu'à fin septembre. Avec la restriction, les restaurants ont été invités à fermer tout et à ne pas servir d'alcool. Il est également conseillé aux résidents de travailler autant que possible à domicile et de ne pas voyager. Le président palestinien accuse Israël de détruire la solution à deux États. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que Israël détruisait les perspectives d'un règlement politique basé sur une solution à deux États par des colonies de Cisjordanie capturées lors de la guerre du Moyen-Orient en 1967. S'exprimant devant l'Assemblée générale des Nations unies vendredi via une vidéo de Cisjordanie, Abbas a exhorté la communauté internationale à agir pour sauver la solution à deux États qui pendant des décennies est devenue la base de la diplomatie du conflit israélo-palestinien. Le président Abbas a menacé de révoquer la reconnaissance palestinienne d'Israël s'il ne retire pas de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est dans un délai d'un an. Berita Prancis hari Sabtu bagian kedua 25 September. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Les autorités mexicaines ont mis en place vendredi un abri pour les migrants haïtiens dans la ville frontalière de Ciudad Acuña. Cette initiative est un effort conjoint entre le gouvernement de la ville, la Commission nationale des droits de l'homme et l'Institut national des migrations. Le secrétaire de la ville de Ciudad Acuña, Philippe Basurto, cité par Reuters, a déclaré qu'il fournissait les exigences minimales requises par la Commission des droits de l'homme. Ils fournissent une nourriture adéquate et nutritive, une protection pour les femmes, les enfants et les groupes vulnérables, des espaces dignes et sûrs, la possibilité d'obtenir un permis de séjour valide au Mexique conformément à la loi. Les migrants sont également offerts la liberté de transit. Certains migrants acceptent les offres de déménager dans des refuges, mais d'autres ne font pas confiance aux autorités mexicaines et préfèrent rester dans leur tente de fortune dans un parc près du fleuve Rio Grande. Environ 14 000 personnes, principalement des Haïtiens, ont campé au nord de Rio Grande ce mois-ci et essaie d'entrer aux États-Unis. L'Indonésie, avec son tourisme bien développé et au rythme rapide, a besoin de partager ses expériences avec l'Éthiopie. L'Éthiopie place également actuellement le tourisme parmi ses priorités de développement. C'est ce qu'a déclaré vendredi le ministre éthiopien de l'Innovation et de la Technologie, Abraham Belay, lors de l'ouverture d'un forum de formation touristique organisé à l'ambassade d'Indonésie à Addis Abeba. Belay a souligné l'importance de la coopération touristique entre l'Indonésie et l'Éthiopie, notamment au milieu des efforts pour faire face aux défis de la pandémie de COVID-19. La déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Addis Abeba qui a été reçue samedi indique que le forum de formation au tourisme a été organisé par l'ambassade d'Indonésie à Addis Abeba en collaboration avec la commission du tourisme d'Oromia, le plus grand état d'Éthiopie. La formation sur le thème « Tourisme et développement économique » partageait l'expérience de l'Indonésie Tourism Hackathon 2021 a réuni environ 150 participants venus de divers endroits en Éthiopie, en ligne et hors ligne. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Sampai jumpa.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Palembang au sud de Sumatra. La province du sud de Sumatra a été sélectionnée pour recevoir une subvention du gouvernement des États-Unis dans le cadre du programme Millennium Challenge Corporation pour le développement des infrastructures et le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Le directeur de la coopération en matière de financement bilatéral du ministère de la Planification du Développement National, Kurniawan Aryadi à Palembang, a déclaré mardi que la distribution des fonds de la subvention était liée par un accord liant le gouvernement indonésien présenté par le ministère de la Planification du Développement National et le Millennium Challenge Corporation, qui est une agence du gouvernement des États-Unis. Ce programme vise à réduire la pauvreté par la croissance économique durable. Les nouvelles suivantes sont venues de Kota Waringin Oriental, dans le Kalimantan Central. Le village de Rantau Sawang, le district de Telaga Antang, dans la région de Kota Waringin Oriental, Kalimantan Central, a achevé la construction d'un magnifique pont suspendu conçu par les résidents locaux. Le pont suspendu jaune a été inauguré par le régent de Halikinor vendredi dernier. Le pont suspendu a une longueur de 60 mètres. La construction principale est en bois de fer et en fer. La chose intéressante est que la planification et la conception ont été faites par des architectes locaux. Ce pont est très utile pour la communauté parce que l'ouverture de la route dans la zone opposée vient d'être terminée afin qu'il puisse ouvrir l'isolement et augmenter les activités communautaires. Les dernières nouvelles sont venues de Depok dans l'ouest de Java. L'Université d'Indonésie a conçu l'idée d'un programme mondial d'apprentissage en ligne appelé Cours en ligne UI Green Metric sur la durabilité. L'initiateur de ce programme, Junaidi, dans une déclaration écrite mercredi, a déclaré que ce cours traite des interactions complexes entre l'économie, la vie sociale et l'environnement physique de la planète Terre, ainsi que les conséquences des activités humaines sur l'environnement planétaire et les solutions pour y faire face. Et le fondateur de UI Green Metric, le professeur Riri Fitrisari, a déclaré que tous les participants étaient des apprenants du monde entier. Ils peuvent créer une atmosphère de collaboration pour devenir des agents de changement et collaborer à l'échelle mondiale pour changer les campus, les pays et la planète Terre. Ce programme a été officiellement lancé en août 2021, avec l'inscription des participants du à septembre 2021. La période d'étude dure du 8 septembre jusqu'au 14 janvier 2022. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the cat in over bragging.
van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 25 septembre. Le 25 septembre 1978, l'écrasement d'un avion de Pacific Southwest Airlines du vol 182. Le vol 182 de Pacific Southwest Airlines est entré en collision avec l'avion léger Cessna 172 à San Diego, Californie, le lundi 25 septembre 1978. Le nombre de morts de 144 personnes est devenu l'accident l'avion le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation américaine. Les deux avions se sont écrasés à North Park à San Diego, à l'intersection de Dwight et Dunhill, tuant 137 personnes dans les deux avions et 7 personnes au sol, dans des maisons, dont 2 enfants. 9 personnes blessées et 22 maisons détruites. Un accident a entré révision des règles du trafic aérien. Le 25 septembre 1992, NASA a lancé l'Observatoire Mars. L'espace de l'Observatoire de Mars, qui est également connu sous le nom Orbiteur Géoscientifique Climatologique de Mars, est l'espace spatial robotique d'une masse de 1018 kg lancé par la NASA le 25 septembre 1992. Cet espace est la première mission de robotique envoyée pour étudier la surface, atmosphère, le climat et les champs magnétiques de Mars. Cette mission a échoué et a perdu la communication le 21 août 1993, 3 jours avant d'entrer en orbite. L'effort de restauration de la communication a échoué. Le 25 septembre 2003, le tremblement de terre à Hokkaido. Le 25 septembre 2003, le tremblement de terre s'est produit au large des côtes de Hokkaido au Japon. Le 25 septembre UTC ou le 26 septembre heure locale. La pointe du séisme s'est produite à une profondeur de 27 km sous le niveau de la mer avec une force de 8,3 sur l'échelle de Richter. Ce tremblement de terre est devenu le plus puissant au Japon depuis 1900. Ce séisme a provoqué de grands dégâts, détruit des routes, des glissements de terrain et coupé les connexions électriques. Le séisme a provoqué un tsunami d'une hauteur de 4 mètres. Au moins 800 personnes ont été blessées. Le tremblement de terre a été ressenti dans tout le Japon. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
janji padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami mengabdi
première chanson indonésienne, J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée L'Indonésie reçoit un investissement dans les câbles sous-marins Australie-Singapour de 2,58 milliards de dollars américains. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, représentant le gouvernement indonésien, a accepté la coopération de l'Australie pour soutenir le projet d'énergie nouvelle et renouvelable Australie Asia Powerlink, avec l'investissement total de 2,58 milliards de dollars américains. Dans l'événement, l'annonce d'investissement Australie Asia Powerlink, jeudi 23 septembre, Luhut Panjaitan a déclaré que la coopération concerne sur le projet de construction d'un câble sous-marin qui fournit de l'électricité à partir du champ de panneaux solaires en Australie pour être vendu à Singapour. Selon Luhut, cet investissement montre que l'Indonésie soutient le développement d'énergies nouvelles et renouvelables en Asie pour réduire les émissions mondiales de carbone. Luhut a ajouté que l'entrée de l'investissement de sociétés d'énergie renouvelable devrait apporter de grands avantages à la population indonésienne via la création d'emplois et au transfert de la technologie. En outre, l'investissement contribuera également à améliorer les performances de l'Indonésie en tant que grand pays de l'ASEAN qui est capable d'atteindre son objectif de réduction des émissions de carbone. Lors du même événement, l'ambassadrice australienne en Indonésie, Penny William, a remercié le ministre chargé de la coordination des affaires maritimes et de l'investissement pour son soutien au projet d'énergie renouvelable de la société de Sun Cable et à l'investissement australien dans son ensemble en Indonésie. Le PDG de Sun Cable, David Griffin, a déclaré que lors de l'installation du projet, son parti ajoutera également l'investissement de 1,58 milliard de dollars américains pour les coûts opérationnels, avec le potentiel des batteries en lithium en Indonésie. Selon lui, il existe une opportunité d'acheter des batteries électriques pour les entreprises de fabrication en Indonésie pour un montant de 600 millions de dollars américains. En outre, Griffin a également souligné son engagement en investissant dans le câble électrique sous-marin. Sun Cable respectera toutes les réglementations applicables en Indonésie, y compris les dispositions concernant les pipelines ou les câbles sous-marins. Il a déclaré qu'il était très satisfait de la perspective de la fabrication de batteries en Indonésie pour répondre aux besoins de son entreprise. Selon lui, cela créera une excellente occasion d'aider à garantir les investissements dans la fabrication de nouvelles batteries stationnaires en Indonésie. Sun Cable a travaillé avec plusieurs partenaires à ce sujet et continuera de le faire. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie.
Seperti bajingan.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel. Aujourd'hui, nous allons voyager à Banyuwangi, dans la province de Java Oriental, pour profiter de la beauté de la cascade Telunjuk Dewa Raung. Situé à 40 km du centre-ville de Banyuwangi, au sud-ouest, il y a un paradis caché dans le village de Sumber Arum, dans le district de Songgon, où se trouve une cascade de Telunjuk Dewa Raung. La cascade est située sur les pentes du mont Raung. La route pour se rendre aux chutes de Telunjuk Dewa Raung n'est pas facile. Les visiteurs doivent marcher sur la route au milieu des fermes de canne à sucre appartenant à Tirta Harapan Plantation. La distance de la résidence des résidents du village de Sumber Arum est environ 4 km avec des conditions de route qui est raide et en montée. En arrivant à la zone de la cascade de Telunjuk Dewa Raung, vous payez seulement un prix de stationnement de 2000 rupiah. Cette cascade est appelée cascade de Telunjuk Dewa Raung qui signifie le doigt du dieu Raung parce que la cascade et la rivière forment une figure d'un doigt pointant vers le haut. Il y a quelque chose d'intérêt à la cascade Telunjuk Dewa Raung ayant une hauteur d'environ 40 mètres. C'est que sous la cascade, on trouve une cave assez profonde dans laquelle la couleur de l'eau claire et le paysage autour de la cascade Telunjuk Dewa Raung convient aux personnes qui aiment profiter du paysage naturel et aussi pour ceux qui aiment la photographie parce que le long du chemin, vous pouvez voir de nombreuses belles vues des arbres qui ornent les roues vers la cascade. Chers auditrices et auditeurs, voilà cette édition magazine culturel. Merci à tous et au revoir.
it's time to sleep.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis de quatre coins du monde, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée « La première école construite en déchets qui sont transformés en briques ». Une école à Lombok Occidental, précisément l'école élémentaire d'État 04 Medas, situé dans Medas Bentaur, Lombok Occidental, devenant une école spéciale. Elle est l'une des écoles qui a le privilège de reconstruire après le tremblement de terre à Lombok Ouest il y a 3 ans. Mais le matériau utilisé pour construire cette école est particulier, à savoir sous la forme d'un agencement de briques de la transformation de déchets plastiques ou éco-briques. L'utilisation d'éco-briques à l'école élémentaire d'État 04 Medas fait de cette école un projet pilote, en plus d'être la première école en Indonésie à être construite en mettant en œuvre un système respectueux de l'environnement et un concept zéro déchet. Il faut jusqu'à 2 à 3 tonnes de déchets qui sont transformés en briques pour construire chaque salle de classe de 6 par 10 mètres dans l'école. En termes de processus de développement, la mise en place de cette école permet également un gain de temps important car les matériaux éco-briques ne doivent être assemblés qu'à la main comme les Lego. En termes d'avantages, les briques écologiques ont un poids plus léger, des prix abordables et des matériaux censés durer jusqu'à 100 ans, tout comme l'âge du plastique pour se décomposer. Concernant la sécurité, il est certain que le bâtiment réalisé en éco-briques résiste aux chocs sismiques. Ainsi, si un tremblement de terre se produit plus tard, le bâtiment tremblera encore, mais sa nature est plus élastique, afin que les étudiants ne seront plus tard dans le bâtiment et la possibilité de se sauver. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Terima kasih.
Chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Voici le magazine musical. Cette fois-ci, on présente une chanson de Kroncong intitulée Segenggam Harapan, chantée par Dina. La jeune génération, ou la jeunesse et l'espoir, est le fondement de l'avenir de la nation. C'est ce qui s'exprime dans la chanson composée par Budiman Bijé. Divers espoirs sont placés sur la jeune génération, y compris dans le développement et la préservation de la culture de la nation. On espère également que les jeunes auront également une âme forte et une détermination dans le combat. Bon, chers auditeurs, voici Dina avec la chanson de Kroncong intitulée « Segenggam Harapan » ou en français « Une poignée d'espoir ». Bonne écoute. Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.